France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quel homme fut donc Alexandre Grothendieck ? Alexandre Grothendieck fut ce mathématicien génial, une quasi-légende, qui un beau jour a choisi de carrément prendre la tangente, si l'on peut dire. Fils d'une mère allemande et d'un père ukrainien, il est arrivé en France en 1939. Pendant la guerre, il a connu les camps d'internement. C'est dans ces circonstances qu'il découvrit le refuge intérieur qui deviendra son monde et même son royaume, les mathématiques. Il devint vite un chercheur incandescent. Puis il quitta brusquement le monde des mathématiques pour devenir un écologiste radical, avant de se retirer dans un village reculé de l'Ariège. C'est ainsi qu'il eut 3 ou 4 vies successives, entre sa naissance, le 28 mars 1928 à Berlin, et sa mort en 2014 à Saint-Girons. À cause du choix qu'il fit de vivre en ermite les 23 dernières années de sa vie, Grothendieck incarne à sa façon la promotion de l'évanescence dans l'ontologie radicale. Car ce choix donne à croire qu'il le résume et le raconte davantage que tout le reste. Il rétroprojette en effet son ombre sur tous les événements antérieurs de sa vie, comme s'il n'avait jamais eu d'autre intention que celle d'échapper un jour au commerce des hommes. Mais raisonner ainsi serait injuste, car ce serait oublier l'homme, ses vies et son œuvre, qui est monumentale et demeure en partie inexplorée. Pour respecter la volonté d'effacement total qu'il fit connaître à la fin de sa vie, on ne devrait pas prononcer le nom de Grothendieck, ni même évoquer ses travaux. Cette réclamation n'a guère eu d'effet. Ses découvertes ont largement infusé dans les mathématiques contemporaines de façon irréversible, et elles continuent d'inspirer les chercheurs. Et récemment, les éditions Gallimard ont publié « Récolte et semaille », un ensemble foisonnant de textes de Grothendieck sur les mathématiques et leur poésie particulière, de réflexions sur l'écologie ou encore de méditations de nature spirituelle. Mais qui fut donc cet homme aux facettes multiples ? La publication récente d'une partie de sa correspondance, écrite entre 1975 et 1989, permet-elle de mieux cerner sa personnalité ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir, la joie, l'honneur de recevoir Alain Cohn. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mathématicien, vous avez occupé au Collège de France la chaire d'analyse et de géométrie. Vous êtes lauréat de la médaille Fields en 1982. Et vous avez rédigé avec Patrick Gauthier-Lafaille la préface d'un livre qui vient de sortir aux éditions Odile Jacob intitulé « Alexandre Grothendieck, les années cachées ». C'est un ouvrage qui contient des lettres écrites par Grothendieck et commentées par Christian Escriva. Alors, c'est la fête de la science qui commence aujourd'hui.
Oui.
Et je suis ravi de la célébrer en votre compagnie sur les ondes de France Culture. Je vous avais déjà reçu, Alain Cohn, vous en souvenez, pour un livre qui parlait déjà de Grothendieck. Vous aviez écrit avec Patrick Gauthier-Lafaille également, qui s'intitule « À l'ombre de Grothendieck et de Lacan, un topos sur l'inconscient », dans lequel vous faisiez entrer en résonance les notions géométriques inventées par Grothendieck et les travaux de Lacan sur l'inconscient. Au fait, vous aviez remarqué, Alain Cohn, que votre anagramme, c'est « son lacanien ».
C'est pas mal, ouais.
Et moi, j'avais trouvé « salon ancien », mais c'est moins bien. « Son lacanien », ça a été trouvé par Olivier Garcia.
Il y a aussi « non alsacien ».
Et il y a aussi « non canalisé ».
Oui.
C'est peut-être ça aussi, un peu. Alors, est-ce que... Je sais que vous n'avez jamais rencontré Grothendieck.
Non.
Mais est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez entendu parler de lui la première fois ?
Disons que à mon époque, je n'ai jamais rencontré Grothendieck, et il apparaissait un petit peu comme Salvador Dali, c'est-à-dire il était suivi d'une cour, et j'avais vraiment presque l'obligation de me tenir à l'écart de ce monde-là, ne serait-ce que pour exister mathématiquement. Donc, mon rapport avec Grothendieck s'est fait à travers la lecture, et en particulier, bien sûr, la lecture de Récolte et semaille, qui, bien longtemps avant d'avoir été publiée par Gallimard, était disponible pour les mathématiciens. Et la lecture de Récolte des semailles a complètement changé ma compréhension de Grothendieck. J'ai compris à quel point, j'aime pas le mot génial, mais à quel point justement il avait une dimension qui était très au-delà de l'univers strictement mathématique. Et en fait, à quel point il est un écrivain extraordinaire avec un contrôle de la langue française qui dépasse de loin la moyenne. Et à un moment donné, d'ailleurs, au moment de la mort de sa mère, il avait une crise par rapport aux mathématiques. C'était en 57 et il avait eu la tentation de devenir écrivain et de quitter vraiment le monde mathématique déjà en 1957. Alors, en fait, il faut que je précise un petit peu la trajectoire de Grothendieck par rapport aux mathématiciens.
Cette cour qui l'entourait, c'était avant qu'il disparaisse? Ou c'était...
Ah ben bien sûr, c'était avant qu'il disparaisse. Et d'ailleurs, je pense que le sens caché de récolte et semaille, c'est qu'il a récolté ce qu'il a semé. C'est-à-dire qu'il a accepté d'être entouré par une cour qui ensuite, bien sûr, l'a trahi dès que possible.
Mais dans Récolte et semailles, il règle pas mal de comptes.
Je pense que c'est par rapport à lui-même, c'est-à-dire qu'il dit qu'il a récolté ce qu'il a semé. Moi, je l'interprète comme ça. Bon. Alors, il faut quand même que je retrace un petit peu sa carrière par rapport aux mathématiciens et que j'explique un petit peu ce changement radical qu'il a eu. Alors, sa carrière par rapport aux mathématiciens, je vais lire un tout petit texte qu'il a écrit. Il disait... par rapport à 1948, c'est-à-dire le moment où, venant de Montpellier, il arrive dans le monde mathématique parisien. Il dit « La chose étrange, c'est que dans ce monde où j'étais nouveau venu et dont je ne comprenais guère le langage, puisque il venait d'une petite université et le parlait encore moins, je ne me sentais pas un étranger. Alors que je n'avais guère l'occasion de parler, et pour cause, avec un de ces joyeux lurons comme Veil, André Veil ou Jean Dieudonné, ou avec un de ces messieurs aux allures plus distinguées comme Cartan, Leray ou Chevalet, je me sentais pourtant accepté, je dirais presque un des leurs. Je ne me rappelle pas une seule occasion où j'ai été traité avec condescendance par un de ces hommes, ni d'occasion où ma soif de connaître, et plus tard à nouveau ma joie de découvrir, se soit trouvée rejetée par une suffisance ou par un dédain. S'il n'en avait été ainsi, je ne serais pas devenu mathématicien, comme on dit. J'aurais choisi un autre métier, où je pouvais donner ma mesure sans avoir à affronter le mépris. » Donc ça, c'est un texte extrêmement important, parce que ça montre qu'il a été accueilli à ce moment-là, et il avait à peine 20 ans, en 48 donc, il avait 20 ans, il a été accueilli avec une bienveillance absolument extraordinaire. Ensuite, il est allé à Nancy. À Nancy, Schwartz et Dieudonné lui ont posé des problèmes d'analyse, qu'il a résolus très vite. Et il y a eu un tournant dans sa carrière mathématique qui a été occasionné, je pense, par sa deuxième thèse. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on faisait une thèse de mathématiques, il a fait une thèse sur les espaces nucléaires qu'il avait complètement inventé et qui était magnifique. Et il y avait une deuxième thèse. Et la tradition de la deuxième thèse, c'était que le sujet de la deuxième thèse devait être complètement disconnecté, différent du sujet de la première thèse. Et le sujet de la deuxième thèse de Grothendieck, c'était la théorie des faisceaux. Alors, il faut savoir que la théorie des faisceaux a une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de Jean Leray. Jean Leray était dans un camp de prisonniers pendant la guerre. Et, les prisonniers se donnaient des conférences les uns aux autres, etc. Et Jean Leray n'avait qu'une peur, c'était que les Allemands sachent que ses recherches pouvaient être utiles. Parce qu'il faisait des recherches sur les équations différentielles, et ça, effectivement, si les Allemands l'avaient su, ça aurait été catastrophique. Alors donc, Jean Leray cherchait un sujet le plus abstrait possible, et c'est à cette occasion que Leray a inventé les faisceaux, qu'il appelait des carapaces, si je me souviens bien. Et donc, on voit un petit peu l'ironie des choses.
Le souci d'être inutile.
Le souci d'être inutile qui a fait que c'est la théorie des faisceaux, donc que Grothendieck avait comme deuxième thèse, qui a changé complètement son orientation, qui l'a conduit vers la géométrie algébrique. Et c'est la théorie des faisceaux qui, dans les mains de Jean-Pierre Serre, etc., qui a complètement révolutionné, si vous voulez, la géométrie algébrique, la compréhension des choses. Et ça vient de Jean Leray. Donc, Grothendieck a changé de direction à ce moment-là. Il y a une correspondance foisonnante avec Jean-Pierre Serre. Là, Grothendieck a pu donner toute sa mesure au niveau de... Il avait une capacité de travail phénoménale, c'est-à-dire qu'il était capable de travailler 8 jours en dormant 2 heures par nuit, de manière incroyablement intense, et de... Comment dire, après, il dormait pendant 24 heures. Mais donc, il avait une capacité de travail qui était absolument phénoménale. Et il a dit lui-même qu'il ne se considérait pas comme étant spécialement doué. Il considérait sa qualité première comme sa puissance de travail. Et sa, comment dire, le fait qu'il était capable de rester sur un sujet jusqu'à ce qu'il comprenne vraiment les tenants et les aboutissants d'un sujet. Il disait par exemple, par la suite, j'ai eu l'occasion dans ce monde des mathématiciens de rencontrer bien des gens, aussi bien des aînés que des jeunes gens, plus ou moins de mon âge, qui visiblement étaient beaucoup plus brillants, beaucoup plus doués que moi.
Ben, on raconte qu'il avait un peu de mal à compter, par exemple.
Oui, bon, ça c'est un peu ridicule. Mais effectivement, ce qui caractérise l'esprit de Grothendieck, si on pense à essayer de le caractériser, il avait une capacité d'abstraction phénoménale.
Mais en même temps, il partait toujours à un cône de problèmes concrets.
Oui, oui et non, parce qu'il y a une anecdote, par exemple, c'est de Mazure, Michel de Mazure, qui racontait qu'une fois, il descendait avec Grothendieck pour aller au déjeuner à la cafétéria de l'IHES, et de Mazure pose à Grothendieck un problème sur un groupe qui est bien connu des mathématiciens, qu'on appelle la SL2Z. Bon, ça ne dira pas grand-chose, mais peu importe. Donc, il lui posait une question concrète là-dessus. Et la réponse de Grothendieck a été « Mais la question est mal posée. » Et de cette question qui était mal posée est né un des SGA, je crois que c'est SGA 3, qui est la théorie des groupes algébriques, vue avec la théorie des schémas, qui avait été déjà terriblement bien avancée par Chevalet. Et à la fin, la réponse à la question était une réponse plus ou moins triviale. Donc il faut arriver à comprendre son esprit, qui est un esprit extrêmement particulier, qui est un esprit dans lequel la compréhension vient d'abord par la manière qu'il y a de cerner un problème, de le situer comme il faut, et une fois que le problème est bien situé et bien cerné, etc., la solution doit tomber comme un fruit mûr.
Mais vous dites qu'il disait qu'il y avait beaucoup de mathématiciens plus brillants que lui, en même temps il était assez cassant. Et on apprend dans ce livre que les mathématiciens qui trouvaient vraiment grâce à ses yeux, parmi les morts, c'est Cauchy, Poincaré, Riemann.
Oui.
Et puis il parle de vous aussi. Oui, dans une lettre.
Je l'ai pas vu.
Vous l'avez pas vu, c'est dans le livre.
Oui, bon, bah, d'accord. Dit... Mais en général, quand je vois mon nom, je passe.
Eh ben voilà, Christian Escrima, qui est le destinataire de la lettre, raconte que lors d'une conversation,
il a
parlé de vous avec, dit-il, une admiration mêlée de respect.
Oui, bon, ben, d'accord. Mais de toute façon, je veux dire, un des enseignements fondamentaux de Grothendieck...
C'est en 1978.
Oui, un des enseignements fondamentaux de Grothendieck, c'est que il est fondamental dans la créativité que l'ego soit mis de côté. Donc, je veux dire, en général, je veux dire, indépendamment de Grothendieck, j'ai toujours utilisé cet adage, si vous voulez, parce que je vous lirai un passage qu'il a sur la création, et qui est vraiment, qui va exactement dans ce sens-là. Donc, alors, ce qui s'est produit, donc, c'est que là, bon, Grothendieck a pu donner toute sa mesure, il a donné toute sa mesure en géométrie algébrique, et également à cette occasion-là, qu'il a découvert les topos, je veux dire, parce que il décrit très bien qu'au moment où il était arrivé à Paris, il y avait plein de diagrammes qui étaient écrits au tableau et tout ça, et c'est marrant parce que dans le premier travail qu'il a fait sur les faisceaux, c'était pour arriver à définir la cohomologie des faisceaux sur un espace topologique quelconque, il avait déjà un exemple qui montrait qu'il était sur la piste des topos.
Rappelle-nous ce que c'est qu'un topos, cette géométrie sans point.
Bon, alors, je ne veux pas en parler trop longtemps, mais je veux quand même insister sur le fait que c'est une des découvertes de Grothendieck à laquelle il tenait le plus, avec celle des motifs, et que cette découverte, contrairement aux motifs, est une découverte qui a une portée qui va bien au-delà des mathématiques. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Je pense que c'est important pour l'auditeur d'apprécier ça. Alors, quelle est l'essence ? Parce que on a un exemple maintenant, on a un séminaire de psychanalyse dans lequel on essaye de faire passer cette notion de topos. Mais il est clair qu'on n'arrivera pas à la faire passer en essayant de transformer les psychanalystes en mathématiciens. Ça ne marchera pas. La seule chose qu'on puisse faire, c'est essayer de l'expliquer par des métaphores, par des comparaisons, de telle sorte que l'idée soit expliquée et que du coup, la portée de l'idée soit utilisable. Alors, c'est ça que je vais essayer de faire. Alors, pour faire cela, je vais prendre une comparaison. Et, si vous voulez, la manière classique, avant Grothendieck, de considérer un espace, c'était la manière qui consiste à le regarder et en le regardant, essayer de comprendre ses propriétés. Et cette manière, je la rendrai analogue à celle d'un médecin qui voit arriver un patient et qui va l'examiner,
l'ausculter.
Pour l'ausculter, etc., pour essayer de comprendre quel est le problème. Alors, la méthode de Grothendieck est extraordinaire et elle demandait un pouvoir d'abstraction peu commun. Pourquoi ? Parce que fait Grothendieck pour essayer d'analyser un espace ? Il ne regarde pas l'espace, il le met de côté. Et il va faire de la théorie des ensembles ordinaire à paramètres dans cet espace. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre, par exemple, supposons que l'espace est simplement deux points. Eh bien, on va faire la théorie de deux ensembles, ça paraît idiot. Mais quand on fait la théorie de deux ensembles, on n'a pas seulement le vrai et le faux. On a le vrai, le faux, et on a le vrai faux. Et donc la logique change. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que en faisant cela, en faisant de la théorie des ensembles à paramètres, Grothendieck réussit à voir des toutes petites différences, des toutes petites nuances avec la théorie des ensembles ordinaires. Et ce sont ces toutes petites nuances qui ont l'air imperceptibles qui vont lui permettre de comprendre les propriétés de cet espace qui seraient inaccessibles à la vue. Et je mets cela en parallèle avec le remplacement du médecin par un psychanalyste qui va dire au patient, non pas qu'il va le regarder, qui va dire au patient de s'allonger en dehors de la vue du psychanalyste et qui va lui demander de parler.
Ah,
et qui va, dans son langage, qui pourtant parle de choses ordinaires, parce que quand le patient va parler de sa vie, etc., ça n'intéresse pas le psychanalyste. Ce qui intéresse le psychanalyste, c'est quand il va parler de la pluie et du beau temps. Et que dans ce langage-là, dans ce parler-là, il va pouvoir déceler d'infimes subtilités qui vont le renseigner beaucoup plus sur le patient, sur quel est le problème.
Si je vous comprends bien, Lacan, ça veut dire que l'idée de topos permet en quelque sorte la nuance en mathématiques.
Ce que ça permet, c'est plus que la nuance, parce que la plupart des mathématiciens sont un peu dérangés par la notion de topos pour la raison suivante. C'est que les seuls espaces avec lesquels ils sont familiers sont les espaces topologiques ordinaires. Or, ce que dit Grothendieck, c'est remplacer donc un espace topologique ordinaire. Alors là, je vais dire des mots assez effrayants, mais quand on a l'image mentale du psychanalyste, on comprendra. Ces mots assez effrayants sont « on remplace l'espace par la catégorie des faisceaux d'ensemble sur cet espace ». Les faisceaux au sens de Leray. Et alors, bien sûr, ça paraît quelque chose d'assez abominable, parce qu'on a un espace, on peut le regarder, et au lieu de le regarder, on va regarder cette catégorie d'ensemble qui est quelque chose de terrible, d'une certaine manière.
L'espace est laissé dans les coulisses.
Bien sûr. Mais alors, ce que les gens ne savent pas, ce que les mathématiciens, la plupart du temps, ne réalisent pas, c'est qu'il y a 36 autres exemples de topos qui ne sont pas des espaces topologiques, qui sont très très simples, et qui correspondent en fait... Alors ça, je sais qu'il y a eu un épisode de la conversation scientifique dans laquelle il était question de l'allocution de Grothendieck au CERN.
Oui, avec Nicolas Chevassu.
Voilà,
oui, oui.
En 1973.
72.
Alors, 72. Alors, ce qui est absolument hallucinant, c'est la chose suivante, c'est qu'à la fin de cette allocution, il y a eu des questions. Et parmi les questions, il y a une question extrêmement révélatrice de quelqu'un à qui Grothendieck a répondu que les mathématiques n'avaient pas l'outil pour être capable de dire ce que c'est qu'une porte qui n'est ni ouverte ni fermée. Alors que la théorie des topos donne exactement l'outil qu'il faut, avec la logique intuitionniste, pour être capable, avec des topos extrêmement simples, mais qui ne sont pas des espaces topologiques, de dire par exemple, et ça, je veux dire, c'est un exemple très très frappant, d'un topos, de dire qu'on est à 3 pas de la vérité, à 10 pas de la vérité, à 15 pas de la vérité.
Oui, ça trace un chemin vers la vérité.
Par exemple, dans chaque topos, qui est ce qu'on appelle un topos qui est dual d'une petite catégorie, on a les chemins de la vérité, et on a, si vous voulez, toutes sortes de nuances sur la logique ordinaire qui me font dire que nous sommes démunis devant des situations politiques compliquées ou des situations conflictuelles, etc. Nous sommes démunis pourquoi ? Parce que nous sommes limités dans notre utilisation de la logique à la logique binaire. Et nous sommes forcés de prendre parti, de faire partie d'un camp ou d'un autre, etc. Alors que, justement, la logique qui est sous-jacente à un topos est une logique qui permet infiniment de nuances et qui permettrait, si on était capable, de l'utiliser.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire, Alain Kohn, la même chose de la mécanique quantique, avec le principe de superposition ?
Alors, attention, il y a deux domaines qui se parlent, et je veux dire, dans les travaux que j'ai faits, c'est le fait que ces deux domaines se parlent qui a été une des choses les plus signifiantes. Il y a deux domaines qui se parlent. Le domaine des topos, donc, comme je le disais, qui sortent de l'ordinaire parce qu'ils ont des espaces, ils décrivent des espaces qui sont bien loin des espaces topologiques, et la mécanique quantique, et en particulier la géométrie non commutative, qui, elle, justement, traite d'espaces qui sont de nature quantique. Mais la merveille, c'est que ces deux mondes, si vous voulez, le monde des topos, que je considère comme le monde de qui nous sommes, parle avec le monde quantique, qui est le monde du où nous sommes.
Les grandes connexions.
Grandes connexions, connexions très profondes, qui n'ont rien d'évident, et qui, justement, demande d'être de plus en plus approfondi.
Alors venons-en, si vous voulez bien, Alain Kohn, à ce livre que vous avez préfacé avec un psychanalyste, qui est Patrick Gauthier-Lafaille. Oui. Comment est né ce livre et qu'est-ce que vous avez appris de Grothendieck sur ses travaux? Peut-être pas grand-chose, mais en tout cas sur sa personnalité.
Alors, ce que j'ai appris sur Grothendieck, si vous voulez, j'ai changé radicalement du point de vue normal du mathématicien. Le point de vue normal du mathématicien, c'est que Grothendieck était génial. Il a travaillé en maths de manière absolument géniale jusqu'aux années 70, le début des années 70. Et après, la plupart des mathématiciens vous diront « il est devenu fou ». C'est-à-dire que, bon, il s'est mis à, par exemple, il allait dans des conférences de Jean-Pierre Serre, il se mettait au fond et il disait « Légion d'honneur », parce qu'il critiquait Serre pour avoir accepté la Légion d'honneur.
Lui avait refusé la...
Bien sûr.
Non, il n'a pas refusé.
Non, il n'a pas refusé.
La médaille film, il a refusé d'aller la chercher en Union soviétique.
Oui, non, mais ça, c'était une question politique. Mais alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est l'évolution de Grothendieck. Donc, le premier déclic de l'évolution de Grothendieck, c'est quand il est allé à Saïgon en 1967 et qu'il a vraiment reçu en pleine figure l'horreur de l'utilisation de la science pour tuer des gens. Il est devenu antimilitariste, vraiment fondamentalement. Et là, je veux dire, c'était pas quelque chose de superficiel. C'est-à-dire que, en fait, quand Grothendieck comprenait quelque chose, il y consacrait tout son être. Donc, ça, je pense que ça a été un changement radical chez lui. Et alors, c'est amusant parce que tout le monde a dit que donc Grothendieck est parti de l'IHES parce que l'IHES était financé en partie par l'OTAN, donc etc. Ça, c'est le discours normal. J'ai eu l'occasion, pendant des années, d'aller déjeuner avec Léon Mochan,
le directeur de l'Institut,
le fondateur de l'IHES, qu'il avait fondé en 1958 pour Grothendieck. Hein, bon, vraiment. Alors, la raison pour laquelle j'allais déjeuner chez Léon Mochan, c'était que Léon Mochan pensait avoir résolu un problème mathématique qu'on appelle le problème de Suslin. Or, ce problème est connu comme étant indécidable. Donc j'avais une tâche très très difficile, qui était que quand je disais à Léon Mochan « Mais c'est pas possible que votre démonstration marche parce que... » Il me disait « Mais pourquoi tu prends cet axiome supplémentaire ?» Donc, ma tâche, en fait, c'était chaque fois de trouver l'erreur dans la démonstration de Léon Mochan.
Tout en étant diplomate.
Tout en étant le plus diplomate possible. Sauf que, ce qui arrivait, donc, c'était que j'allais chez eux, il était avec sa femme, Annie Mochan, il me recevait très, très cordialement, j'allais dans son bureau, et au bout d'un moment... il y avait une grande effervescence dans le bureau parce que j'avais trouvé l'erreur. Et Annie Mochan frappait à la porte, elle disait « Le déjeuner est servi ». Donc, à ce moment-là, nous avions de longues discussions au déjeuner. Et j'avais, bien sûr, utilisé cette occasion pour poser la question à Léon Mochan. Comment se fait-il que Grothendieck soit parti de l'Institut, de l'IHES ? Et alors, Léon Mochan avait une autre explication. Bah, je vous livre l'explication de Léon Mochan, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Et il disait que Grothendieck ne supportait pas le fait que Pierre Deligne soit plus intelligent que lui, soit meilleur que lui. Donc, c'était ça l'explication de Léon Mochan. Alors, c'était sûrement, probablement, ni l'une ni l'autre des deux explications. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Grothendieck avait réalisé la chose suivante. Il avait réalisé qu'on pouvait être un très grand mathématicien et être dans un état de total délabrement spirituel. Donc, il avait, je pense, compris que son dévouement total au sein des mathématiques ne répondait pas, en fait, à des questions fondamentales qu'il avait.
Oui, il dit que toute sa vie, il a lutté contre le désastre intérieur,
voilà.
Qu'il a toujours dû se battre pour la survie de son être et ne pas sombrer dans le désespoir.
Oui, alors, avec Patrick Gauthier-Lafargue, on pense, bon, lui, il est psychanalyste, moi, je ne connais pas suffisamment, mais avoir au moins un événement terriblement traumatique. L'événement terriblement traumatique, c'est que quand il a été, on peut dire, abandonné
par
ses parents et par sa mère, parce que son père était parti avant. Donc, quand il a été abandonné près de Hambourg par sa mère, après qu'on ait montré sa chambre à Grothendieck, il avait à peine 6 ans, il venait juste d'avoir 6 ans. Après qu'on ait accompagné Grothendieck voir sa chambre, quand il est redescendu, sa mère était partie, sans lui dire au revoir. Donc c'est un événement évidemment traumatique. Il était avec une demi-sœur quand même, mais je veux dire, il avait eu une enfance qu'il décrit très bien, quand il parle de l'éloge de la mère, qu'il décrit parfaitement comme étant une enfance très très heureuse quand il avait eu moins de 6 ans. Et puis après, bon, ben, il a eu ce traumatisme terrible, plus après tout ce qui s'est passé, bien sûr, après quand il est rentré en France.
Mais vous voulez dire que sa recherche en mathématiques était peut-être un palliatif ou un moyen de lutter contre la douleur, parce qu'il raconte aussi qu'un jour, il va chez le dentiste, il refuse les produits anesthésiants, il se pose un problème de maths pour être...
Oui, mais ça, c'est une technique bien connue des mathématiciens, je veux dire, je l'ai employée aussi. C'est pas particulier à Grothendieck, non. Je pense pas. Je pense que ce serait une erreur de croire que... Je pense que ça, c'était quelque chose, si vous voulez, qu'il aimait tellement les maths en tant que tel, qu'il n'avait nul besoin de réparer un traumatisme ou quoi que ce soit par cela. Non, je pense que ce qui est arrivé, c'est beaucoup plus complexe, que c'était un traumatisme fondamental. Bon, qu'après, si vous voulez, il a perdu sa mère, comme je l'ai dit, en 57. Là, il avait déjà eu des doutes sur continuer à faire des maths. Après, en 70, bon, il a eu cette espèce de prise de conscience qui l'a fait profondément réfléchir sur... le fait, si vous voulez, que faire de la science pouvait être utilisé à très très mauvais escient, ça c'est certain. Et bon, il y a une suite d'événements malheureux qui se sont produits, parce que son attitude était contradictoire avec la possibilité, si vous voulez, de rester dans le système d'une certaine manière. Il a fini par se réfugier à Montpellier, à enseigner à Montpellier. Et c'est là que Christian Escrivá l'a rencontré. C'est une rencontre très très intéressante, parce que on voit la vraie personnalité de Grothendieck qui commence à émerger. C'est-à-dire que, bon, Escrivá était très surpris de voir qu'un mathématicien aussi reconnu, etc., que Grothendieck se soit, on pourrait dire, enterré ou réfugié, si vous voulez, à Montpellier. Et pendant un temps, il n'avait pas osé lui écrire. Ensuite, en août 75, il lui a écrit une lettre. C'était un petit peu comme une bouteille à la mer. Et je vais vous lire la réponse de Grothendieck, parce que c'est quand même incroyable. C'est là qu'on s'aperçoit.
La réponse à la première lettre.
La réponse à la première lettre. Il lui dit, cher Christian, il le tutoie, il lui dit, viens quand tu veux, d'ici le 10 septembre. En principe, je ne bouge pas de chez moi. D'autant plus que j'ai une fracture de la jambe et pour quelque temps marche encore avec des béquilles. Mon adresse est 34 700 Villequin. Villequin est un petit village à 6 km de Lodève. Lodève est à environ 60 km de Montpellier. Au cas où tu n'aurais pas de voiture, je te signale qu'il n'y a pas de gare SNCF à Lodève. Il faut prendre l'autocar à Montpellier jusqu'à Lodève. De là, tu prends un taxi ou tu montes à pied. Pour éviter tout pépin, avertis-moi du jour de ton arrivée, soit par lettre, soit en me téléphonant. Il donne son numéro de téléphone. Et puis après, il dit, tu peux pieuter chez moi si ça t'arrange. Donc, il lui propose de dormir chez lui. C'est génial.
Mais est-ce qu'il sait qu'il a, il sait qu'il a eu comme étudiant, mais
non,
est-ce qu'il...
non, il a, ça n'a pas d'importance. Il l'accueille comme lui a été accueilli par les mathématiciens de Paris quand il est allé à Paris. Il l'accueille à bras ouverts.
Et alors, Christian Escrivá, il veut faire de la physique à cette époque-là.
Oui, à cette époque-là, Christian Escrivá veut faire de la physique, mais entre les deux s'engage un très 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 long et merveilleux dialogue qui, en fait, je veux dire, il faut le dire sur ce livre, où à quelques pages que l'on ouvre de ce livre, on tombe sur un texte qui vous oblige à réfléchir. Mais c'est ça qui est formidable.
Mais sur une correspondance, alors on n'a que les lettres de Grothendieck.
Oui, pas... mais on a les réponses d'Escrivá, ouais. Parce que ouais. En plus, Escrivá donne le contexte,
il commente,
il donne sa réponse, enfin, etc.
Il y a des lettres très longues.
Il y a des lettres très très longues. Et alors, je suis obligé, parce que je veux dire, je trahirais ce texte merveilleux si je ne vous lisais pas certaines parties et je faisais certains commentaires. Alors en fait, il y a une partie que je trouve tout à fait d'actualité, vraiment, on ne peut pas dire autrement, dans ce texte-là. Et c'est une partie qui concerne la période dans laquelle on vit, et que je pense... Grothendieck aurait qualifié de paroxysme de la répression castratrice.
Allons-y.
Alors, donc, je lis une lettre de Grothendieck, qui est la lettre du 29 juin 1979. Grothendieck avait demandé à Christian des textes sur l'origine de la répression sexuelle. Donc, Christian, je pense, lui avait envoyé Totem et Tabou, mais donc de Freud, bien sûr. Et donc, c'est une réflexion qui est assez longue, mais qui a trait à la psychanalyse et qui a trait, bien sûr, à l'interdit de l'inceste. Alors, je vais vous lire la lettre, de la réponse de Grothendieck, qui lui dit « Cher Christian, merci de ta lettre sur le castrateur, entre guillemets, que je viens de lire. J'ai le livre « Totem et tabou » en allemand. Il faut dire que la langue maternelle de Grothendieck était l'allemand et qu'il maîtrisait parfaitement l'anglais, l'allemand et le français. Le français, on s'en rend compte quand on le lit. Et vais l'emporter à tout hasard. D'après les explications que tu donnes dans ta lettre, il ne semble guère y avoir là qu'une rationalisation du tabou, intériorisée avec une telle force chez Freud, sans doute, que n'importe quoi semble assez bon pour justifier le tabou. Et il me semble que tu es un peu dans la même situation, en faisant confusion entre la nécessité cosmique de quitter la mer avec un petit M, pour la mer avec un grand M, ça c'est la mer cosmique, laquelle mer avec un grand M se trouve aussi dans des tâches créatrices agréées par la société, et le tabou de l'inceste, qui a l'effet opposé à celui de vous libérer de la mer avec un petit M. Et Freud et les psychanalystes qui l'ont suivi en savent quelque chose dans leur pratique quotidienne. Et n'importe qui a des yeux pour voir et s'en sert, tout le monde sait bien que ce qui est défendu est entouré d'une auréole puissante d'attraction supplémentaire. Mais a priori, mis à part, regardant a posteriori la réalité, nous voyons l'impuissance paralyser la vie de tous, même ceux qui ne vont pas traîner savates chez les psychanalystes. Et on voit que la créativité est la plus atteinte chez ceux qui intériorisent le plus la honte en leur corps et en leurs pulsions, et non le contraire. Ce n'est pas l'interdiction de coucher avec ta mère avec un petit M qui t'a forcé à courir le vaste monde, mais l'ambiguïté de ta relation à ta mère, en brisant un élan dès le départ, peut-être, qui t'a rendu difficile d'être libre d'elle. Et je sais bien que s'il y a eu force et élan en moi, c'est parce que dans les premières années de ma vie, dont on parlait tout à l'heure, ma relation à mes parents, mère et père, était exempte de toute ambiguïté, c'est-à-dire de toute peur. Il est vrai que la honte en son corps châtre véritablement l'homme et la femme, de sorte que n'étant plus lui-même, il devient un matériau docile, dans les mains des chefs. C'était clairement ainsi du temps de la Bible. Pourtant, les chefs, eux aussi, sont châtrés. Tout le monde apparemment perd en se trouvant divisé, inauthentique. Et la gratification de l'orgueil du chef, fût-ce un Staline ou un Mao, est elle-même dérisoire. Il est évident que sans castration, l'évolution de l'humanité aurait été entièrement différente. La presque totalité des activités humaines étant des activités de fuite, de remplacement, d'exutoire. Il n'y aurait pas eu sans doute ce qu'on appelle les grandes civilisations, qui toutes ont été édifiées sur des conquêtes, l'oppression, la soif du gain, de la puissance et des honneurs. Bien sûr, ce que les dites civilisations ont apporté de valable, sur mes critères personnels, et le développement d'une certaine connaissance systématique et quantitative du monde par la méthode scientifique, ne manque pas de certains attraits, semble avoir été payé d'un prix vraiment exorbitant, en mutilation et souffrance de chacun. Exorbitant est un mot trop faible, il n'y a pas de mot assez fort. Pour le moment, le seul sens que je peux découvrir à la castration universelle, c'est celui-ci. Alors là, écoutez bien. C'est que le sens de la vie de l'homme n'est pas de couler des jours tous heureux et créateurs dans un monde humain qui soit accueillant à sa personne et à l'élan créateur reçu en sa naissance, mais qu'il doit se perdre et se redécouvrir au cours d'une longue errance dans le monde de la castration. La castration de tous semble servir de cadre à l'ouverture individuelle, qui est bien la retrouvaille de soi, la redécouverte de son unité perdue, mettant fin à la castration de la personne. Ce sens possible sous-entend une sorte de volonté divine ou intention cosmique concernant le destin de l'homme. Je reviendrai là-dessus plus tard. On dirait qu'une main puissante nous jette chacun à notre tour, nus et innocents, dans un merdier indescriptible, inimaginable. Il faut être lessivé comme on l'est pour ne pas être éberlué par l'énormité ubuesque du merdier humain. Je pense que c'est tout à fait d'actualité.
Mais je vous regarde, lisons ce texte à la cône, et j'ai l'impression que ça résonne en vous.
Tout à fait. Alors, j'ai pas fini. Et très vite, on devient soi-même partie intégrante de la merde générale. Le monde se charge de châtrer, vite fait, notre innocence et notre élan. Alors, je continue pas, parce qu'ensuite, il a un mot, un néologisme merveilleux. Il dit que nous sommes tous en merdificoté.
Ah oui, j'ai vu ça.
Alors, je voudrais lire un autre texte avant de faire un point important.
Mais avant, j'aurais une question à vous poser. Oui. Qu'est-ce qui fait, est-ce que vous considérez que Grothendieck, pour vous, c'est une sorte d'esprit frère? Vous le comprenez mieux? J'ai l'impression que vous le comprenez mieux que les autres.
Non, ce serait prétentieux de dire ça. Je veux dire, je me laisse envahir, c'est tout. Quand je le lis, je me laisse envahir. Et alors, je vais lire un autre passage qui est très important, parce que le fils d'un ami qui est mort de crise cardiaque cet été m'a demandé de penser à son père. Donc là, je pense à son père et je lis un passage de Grothendieck sur la mort. Et Grothendieck parle de la mère avec un grand M, donc la mère cosmique. Et il écrit la mère et EST, la mort. Donc il lit la chose suivante. Il dit « La mort est le giron de la vie. En elle, toute chose plonge racine. » D'elle éclose toute naissance. La mort n'est autre que le labor intense et silencieux de la vie s'apprêtant à naître. Avec une force bouleversante, sans cesse renouvelée, cette connaissance nous vient par l'acte. Il parle de l'acte sexuel, hein, là. Et sans cesse, cette connaissance s'approfondit, au jour le jour, par tout ce que nous observons sur la vie et la mort des plantes, des bêtes et des hommes, par tout ce que nous pouvons apprendre sur les processus de vie et de mort, depuis les origines de la vie sur Terre. Et la mort de tout être autour de nous est occasion, rarement saisie, d'un renouvellement de notre vie par le regard en nous-mêmes auquel cette mort nous convie. Alors, il y a quelque chose qui m'a complètement troublé, je dirais. C'est qu'en fait, j'avais dû relire une partie de ce livre. Je me promenais en forêt. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a vraiment troublé. Dans ce texte, il est très souvent question du giron et que le fait que la mort est le retour au giron. Ce qui m'a troublé, c'est que Grothendieck est mort à Saint-Giron.
Oui, je l'ai dit dans l'introduction. Saint-Giron avec un S.
Oui, et il est mort à l'hôpital de Saint-Lizier.
Ah.
Et il vivait à La Serre. La Serre, c'est-à-dire Jean-Pierre Serre au féminin.
Ah. Oh là là.
Donc là, je veux dire... c'est pour ça que je vous ai lu le texte dans lequel il parlait d'un destin cosmique.
Je comprends mieux.
Mais quand on parle d'un destin cosmique, là, je veux dire, bon, on ne peut pas imaginer que Grothendieck se soit établi à La Serre 40 ans après avoir écrit ses lignes.
Vous êtes le premier à avoir vu cette sorte de correspondance.
Ben oui. Ben pour moi, c'est...
Ce sont lacaniens.
Lacaniens ou jungiens, je dirais plutôt, parce que je veux dire, là, vraiment, je veux dire, il y a une résonance cosmique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il était en phase. Il était... Et alors, il y a une autre histoire que je veux absolument raconter à ce propos-là. Parce que, je veux dire, c'est quand même des choses très troublantes. L'autre histoire qui m'a été racontée par le libraire qui a ramené de La Serre les je ne sais pas combien de milliers de pages, 60 000 ou je ne sais pas, de Grothendieck sur le problème du mal. Donc ce libraire, Grothendieck est mort le 13 novembre 2014. Et entre-temps, il y a eu toutes sortes de péripéties, parce que ces textes devaient être donnés à la... ils devaient être acceptés avant 6 mois, etc., dans le testament de Grothendieck. Ça n'a pas été fait. Donc ce libraire est descendu à La Serre, un an après, avec un break. Il a mis ses... Alors, ses textes, d'abord, il faut savoir que quand sa famille est arrivée dans sa maison, le Grothendieck allait mourir, mais ils ont vu un bordel absolument incroyable. Il y avait des pots de fleurs partout. Il y avait juste un tout petit espace pour faire un trajet au milieu des pots de fleurs. Il y avait des tonneaux d'alcool. Mais, extrêmement bien rangés dans des classeurs, il y avait ces 60 000 pages sur le problème du mal. Donc, le libraire est venu. Il a embarqué ses 60 000 pages très très bien rangées, très très bien classées dans son break et est remonté sur Paris. C'était pile un an après. Pendant le voyage, il s'est arrêté pour manger, je crois, quelque part. Il a expliqué à une dame qui était là, qui ramenait ses textes et tout ça. Elle l'a embrassé. Bon, il a continué à remonter en voiture sur Paris. Il avait donc dans son coffre ses 60 000 pages sur le problème du mal. Il a ouvert la radio. On était le 13 novembre 2015, le jour du Bataclan.
Hein.
Il m'a dit qu'il s'en est pas remis. Donc il est arrivé tard dans la soirée sur Paris. Il a ouvert la radio et il a appris que c'était le soir du Bataclan. Et il m'a raconté ça, je veux dire, c'est pas une histoire que j'aurais entendue de quelqu'un d'autre. C'est lui qui m'a raconté cette histoire.
Oui. Donc,
alors maintenant, bien sûr, ces textes ont été récupérés. Heureusement, ils ont été mis à la Bibliothèque nationale. Ils vont être scannés. Et vu l'intelligence extraordinaire de Grothendieck, sa perspicacité, son pouvoir d'analyse qui dépasse toute borne, on peut s'attendre à ce que parmi ces textes-là, il y a des pépites. Et alors, j'ai un autre exemple quand même. Je m'excuse de parler beaucoup, mais j'ai un autre
exemple. Vous êtes à la radio, c'est ce qu'on vous demande.
Alors, j'ai un autre exemple. J'ai un autre exemple dont je veux quand même parler parce que c'est un épisode qui m'est arrivé. Bon, ben, je suis désolé de parler de moi, mais c'est un épisode qui est à propos de Grothendieck. Et bon. Donc. À côté de Récolte et Semailles, il y a un autre texte de Grothendieck qui est La clé des songes. Et à un moment donné, on m'avait demandé au Collège de France de participer à un colloque de rentrée qui était sur les réfugiés. J'avais accepté parce que, vous savez, quand on vous demande quelque chose à une distance de plus d'un an, on a toujours tendance à accepter. Sans se rendre compte de ce qu'on accepte. Donc je ne m'étais absolument pas rendu compte de ce que j'ai accepté. Moi, j'y connais rien. Donc voilà. Alors, il se fait qu'à cette époque-là, ma mère, qui avait 98 ans, avait échappé à un assassinat. Elle vivait seule chez elle après la mort de mon père. Elle s'était fracturé le col du fémur et elle était dans un centre de récupération. Mais ça n'allait pas du tout et j'étais allé dans le Midi à Draguignan pour la ramener chez elle, la faire sortir de ce centre de récupération où on lui apportait de quoi manger. Elle ne mangeait rien. On lui enlevait son repas sans rien faire et elle passait son temps à hurler. Alors je m'étais dit que la seule manière de la sauver, c'était de la sortir de ce centre de récupération, de la ramener chez elle. Donc je l'avais ramenée chez elle et je m'étais dit que fallait bien que j'aie quelque chose à faire la nuit, parce qu'elle continuait à hurler, et ça a duré un certain temps jusqu'à ce qu'elle recommence à manger. Donc j'avais amené avec moi la clé des songes. Et une nuit, j'ai trouvé dans la clé des songes un texte admirable de Grothendieck qui décrit l'illumination de son père, qui était un anarchiste, qui avait été mis en prison au moment de la Révolution russe, qui était resté en prison pendant 10 ans, qu'il savait qu'il devait sortir pendant 10 ans, qu'il avait compté les jours, et au bout de 10 ans, on lui avait dit qu'il n'allait pas sortir. À ce moment-là, il a commencé une grève de la faim. Et au bout de 3 semaines de grève de la faim, il a eu une illumination qui lui faisait pardonner à ses geôliers, etc. Ce texte est bouleversant. Il est écrit d'une manière absolument bouleversante, au point que quand je suis rentré et que j'ai voulu le lire à Dani, mon épouse, j'ai pas pu, tellement l'émotion était forte. Et alors, c'est grâce à ce texte que j'ai pu faire un exposé au Collège de France, ayant pour titre « Grothendieck, créateur, réfugié en lui-même ». Et j'ai pu lire ce texte dans mon exposé parce que je l'avais lu une fois avant. Je n'aurais été absolument pas capable...
Vous aviez été entraîné.
...de le lire si ça avait été autrement. Donc, ce qu'il faut dire, justement, c'est que je suis certain que dans ces milliers de pages... Bon, d'abord, ça va être très, très difficile à déchiffrer parce que c'est écrit par Grothendieck à la main. C'est pas tapé à la machine, hein, comme la plupart de ses textes. Et donc, ça va être très, très difficile à déchiffrer. Mais je suis sûr qu'il y aura des merveilles.
Mais à la compte, c'est étonnant parce que vous parlez d'un texte dans lequel Grothendieck dit qu'il est réfugié en lui-même, il est enfermé.
Non, il ne le dit pas. Hein, non.
C'est vous qui l'interprétez.
C'est moi qui l'ai.
Mais dans ce livre, La Clé des Songes, voilà ce qu'il dit. L'épisode où j'ai quitté la communauté mathématique pour ne plus y revenir en 1970 a été vécu d'abord comme un douloureux arrachement avant d'être ressenti comme une libération, comme le franchissement d'une porte que j'avais maintenue fermée sur moi très longtemps et qui s'était ouverte soudain sur un monde nouveau et insoupçonné.
Tout à fait. Ce qu'on voit dans ce livre, là, le livre Les années cachées, on voit enfin ce que je dirais, ce que j'espère être le vrai Grothendieck, c'est-à-dire un Grothendieck heureux. On le voit avec un sens de l'humour. On le voit... plein d'idées, etc.
On le voit écrivain, surtout.
Écrivain merveilleux. Et, contrairement à ce que les gens auraient pu penser, sa créativité en mathématiques ne s'est pas du tout éteinte. Parce que au début des années 80, moi, il y a un épisode que j'ai vécu presque dans ma chair, si vous voulez, c'est que j'étais dans la commission du CNRS... Quand Grothendieck a été candidat, je crois que c'était en 1984 exactement, donc j'étais dans la commission du CNRS et je défendais Grothendieck. Et j'avais été éberlué au début de la commission, parce que j'avais vu qu'il y avait un plan secret des syndicats qui consistait à faire en sorte qu'on discuterait de Grothendieck quand il n'y aurait plus de poste. Donc là, si vous voulez, je me suis gendarmé. Bon, j'ai réussi à faire en sorte qu'il ait... Il n'a pas eu ce qu'il voulait exactement, mais il a quand même eu quelque chose, bon, malgré tout. Mais il faut absolument que je dise quelques mots sur le texte qu'il avait donné pour sa candidature au CNRS. C'est un texte merveilleux, il avait fait une découverte merveilleuse. Et il faut quand même que j'en dise quelques mots, même si ça paraîtra un peu technique, ça fait rien. Parce que ça va vous montrer que... Comment dire, Jamais les maths ne l'avaient quitté. Les maths, c'était sa vraie maîtresse. Et jamais il ne l'avait quitté. Jamais. Elles étaient toujours présentes dans sa tête. Et la découverte qu'il a faite à ce moment-là, c'est que une idée qu'il avait eue, et bon, alors, pour les gens très très savants, si vous voulez, c'est une suite exacte entre le pion étal d'un schéma quand on regarde ces points sur une clôture algébrique d'un corps, et puis il y a le pion étal sans regarder sur la clôture algébrique, alors on prend le corps des rationnels, et au bout il y a le groupe de Galois de Cubard sur Q, donc, qui est un truc extrêmement mystérieux. Et en regardant ce truc-là, Grothendieck a compris qu'en fait, un dessin d'enfant donnait...
La solution ?
Donnait pas la solution, mais donnait un élément de ce mystère. Et c'est quelque chose de fabuleux. C'est-à-dire qu'il a réussi, si vous voulez, à faire la connexion entre la chose la plus abstraite possible, qui en fait a donné lieu à ce que lui a inventé, qui n'est pas la géométrie non commutative, ce qui est, ça s'appelle la géométrie annabélienne. C'est un peu la même racine. Et donc, il y avait un lien entre ça et les dessins d'enfants. Et ça s'appelait esquisse d'un programme. Et les syndicats étaient contre lui. Et la raison pour laquelle ils étaient contre lui, c'est qu'il avait, écrit explicitement, par honnêteté, qu'il ne pourrait pas prendre d'élèves. Donc, il voulait le barrer. Ouais. D'accord.
Mais quand on candidate à un poste de professeur.
Ah ben voilà. Non, mais c'est quelque chose d'incroyable. Donc, voilà. Donc, j'ai vécu ça. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, sans doute, et si vous voulez, ce qui fait la beauté du livre en question, Les années cachées, par rapport à Récolte et Semail, parce qu'il faut quand même faire la distinction entre les deux, c'est que d'abord, c'est Grothendieck heureux, c'est le vrai Grothendieck, et c'est le Grothendieck avant un traumatisme majeur dont je vais parler, et ce traumatisme majeur a occasionné l'écriture de Récolte et Semail, et a malheureusement occasionné le côté, comment dire, un peu paranoïaque, si vous
oui,
voulez,
de la fin, oui.
De Récolte et Semail. Mais il faut savoir aussi que dans les années 80, Grothendieck est venu voir Odile Jacob avec le texte de Récolte et Semail qu'il avait dans un cabas. C'est-à-dire, comme, vous savez, comme quand on va faire son marché.
Oui, c'est 20 000 pages.
Oui, non, là c'était 2000 pages. Hein, 2000 pages. Récolte et Semail, c'est 2000 pages. Donc il a proposé ça à Odile Jacob. Alors Odile Jacob a regardé le texte et tout ça. Et elle lui a demandé quand même de faire. Bon, certaines corrections, etc. Il voulait pas. Il voulait pas, il n'a pas voulu y toucher, il n'a pas voulu toucher un mot. Et à l'époque, le texte était vraiment, comment dire, iconoclaste, au sens où il a quand même attaqué dans ce texte de nombreux mathématiciens. Et il les a attaqués, sans doute, pour ce que je vais décrire comme étant le deuxième traumatisme qu'il a vécu par rapport au traumatisme de son enfance. Et qui est un traumatisme qui niait totalement son existence. C'est-à-dire ce qui s'est passé en 84, je crois que c'était un 19 avril 84 ou 83, je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Ce qui s'est passé, c'est que Grothendieck, pour aider un de ses étudiants, était allé dans une bibliothèque, avait flâné dans une bibliothèque de mathématiques, et il était tombé en arrêt devant un lecture note de 400 pages. Et ce lecture note de 400 pages, il faut que je vous dise ce que lui en dit, parce que moi je veux pas être, si vous voulez. Donc voilà ce qu'il dit, lui.
Il le dit dans Récolte et Semail
ou... Oui, il le dit dans Récolte et Semail. Donc voilà ce qu'il dit, ce que dit Grothendieck. Donc voilà ce qu'il dit. Il dit, entre 1963 et 1969, j'ai introduit la notion de motif. Et j'ai développé autour de cette notion une philosophie et une théorie restait partiellement conjectural. À tort ou à raison, peu importe ici, je considère la théorie des motifs comme ce que j'ai apporté de plus profond à la mathématique de mon temps. L'importance et la profondeur du yoga motivique n'est d'ailleurs aujourd'hui plus contestée par personne, après 10 ans d'un silence quasi complet à son sujet, dès après mon départ de la scène mathématique. Alors là, maintenant, il va parler du lecture note qu'il a rencontré par hasard. Dans le premier et seul livre, publié en 1981, consacré pour l'essentiel à la théorie des motifs, et où ce nom, introduit par moi, figure dans le titre du livre, le seul et unique passage qui puisse faire soupçonner au lecteur que ma modeste personne soit liée de près ou de loin à quelque théorie qui pourrait ressembler à celle développée en long et en large dans ce livre, se trouve à la page 261. Ce passage, de 2 lignes et demie, consiste à expliquer au lecteur que la théorie développée là n'a rien à voir avec celle d'un dénommé Grothendieck. Théorie mentionnée là, pour la première et dernière fois, sans autre référence ni précision. Alors à ce moment-là, Grothendieck a essayé de réagir. Il a fait 2 choses. Il a écrit à Springer, puisque c'était Springer qui était responsable de la publication du livre. Et j'ai eu l'occasion, très récemment, il y a une semaine, de rencontrer la personne qui lui a répondu de Springer. Elle m'a expliqué qu'elle était nouvelle à Springer, qu'elle connaissait absolument pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Donc elle lui a répondu une lettre, sans doute, mais sans intérêt, malheureusement. Donc, premier élément.
Mais Grothendieck, il avait publié cette théorie des motifs.
Non, alors justement, deuxième chose, Grothendieck a téléphoné à Serre. D'accord. Il a téléphoné à Jean-Pierre Serre. Alors, faut connaître Jean-Pierre Serre. Hein. Jean-Pierre Serre, c'est la rationalité. Et bon, moi, j'aime bien le comparer à Voltaire. Je ne sais pas si j'ai raison, mais alors toujours est-il que Jean-Pierre Serre lui a dit :« Mais tu n'as rien publié. » Alors, c'est vrai qu'il n'avait rien publié. Mais c'est vrai que, si vous voulez, à l'époque, tout le monde savait que cette idée des motifs, c'était une idée de Grothendieck. Le problème, c'est le suivant. Il y a 2 problèmes. Le problème, c'est que, à l'époque, tout le monde savait. 20 ans après, les gens ont oublié. Deuxième problème terrible, c'est qu'il a dû ressentir que sa personne était niée dans cette constatation. C'est-à-dire, il était parti. Et je pense que c'est ça qui a occasionné l'écriture de Récolte et semailles. Et c'est ça qui a fait que, si vous voulez, Récolte et semailles est un texte quand même très, très agressif. Et un texte, bon, qu'il aurait été difficile de publier à l'époque.
Mais est-ce que ça explique ce que j'ai dit dans l'introduction, à savoir, oui, qu'il a voulu qu'on efface son nom et son œuvre après?
Non,
coup
non, je pense qu'après, si vous voulez, il y a eu probablement... Alors d'abord, ce qui m'a beaucoup surpris, moi, c'est que j'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, Paolo Ribbenboim, que je connaissais très bien, et qui a été très proche de Grothendieck, et qui a continué à rester très proche de Grothendieck, jusque dans les années les plus récentes. Et Paolo Ribbenboim m'a dit que dans les années 2000, hein, je ne sais pas exactement la date, je ne sais pas si c'était 2000 ou les années 90, Grothendieck a utilisé son appartement. Ribbenboim avait un appartement à Paris, donc Grothendieck lui a demandé d'utiliser, et il est venu incognito à Paris, à nouveau, pour essayer de faire publier Récolte et semailles. Donc, ça n'a pas été publié de son temps, mais c'est pour dire à quel point, je veux dire, l'image qu'on en a est une image fausse. On a aussi retrouvé dans ses papiers un billet d'avion de 2005 qui montre qu'il est allé à Hambourg, sans doute pour retrouver des souvenirs de Blankenese, là où il était quand il était enfant. Donc, on a une image complètement fausse de Grothendieck. Moi, l'image que les mathématiciens m'ont donnée, c'était l'image de quelqu'un qui était fou, qui était devenu fou. Or, en plus de ça, il y a une lettre de Grothendieck qu'il a écrite en 2010, au moment où les gens ont essayé de le mettre sous tutelle. Et le titre de la lettre, c'est « Grothendieck est-il fou ?»
Et la réponse, c'est non. En tout cas, si on vous croit, c'est non. Merci Alain Colon. J'ai très peu parlé pendant l'émission parce que je sens bien que vous pourriez parler des heures, il faudra revenir. Mais je recommande la lecture de ce livre que vous avez préfacé avec Patrick Gauthier-Lafaille, qui s'appelle « Les années cachées », Alexandre Grothendieck avec Christian Escriva. C'est un livre qui est éclair, en effet, sur la personnalité, pas encore complètement comprise, non, de cet homme remarquable.
Personnalité cosmique.
Voilà. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp. Émission réalisée et mise en onde par Souad Boukorsa.